Sur Radio Campus Tour, vous écoutez La Méridienne. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'appétit vient en mangeant, et oui. Et pour expliquer de quoi il est question, puisqu'il s'agit en fait d'un cycle de conférences et de débats intitulé « L'appétit vient en mangeant », je reçois Régis Encart. Vous êtes pédiatre. Bonjour Régis Encart.
Bonjour.
Alors, de quoi il retourne ? Conférences, débats, grand public, scolaire, alimentation, goût et santé du 8 au 9 novembre 2019 à Tours.
C'est un grand événement et c'est la première fois. Donc c'est important effectivement de savoir de quoi il s'agit. L'idée, c'est de le détour des sciences, puisque c'est le nom générique, je dirais, de ces manifestations, c'est de donner accès au plus grand nombre, de façon intelligible, à des grandes questions qui intéressent la science et la société. C'est ouvert à tous, c'est gratuit, il y a des personnes de renom. Nous avons notamment un prix Nobel qui va parler de tout ce qui est des enjeux climatiques qui sont liés d'ailleurs à l'alimentation. Et ce que nous leur avons demandé, puisque c'est une initiative d'universitaires autour de Patrice Debré, qui est un universitaire très lié à la région, vous connaissez la famille Debré, notamment pour le pour bien sûr le peintre, mais aussi sachez que son fils est un universitaire, un médecin qui a contribué aussi fortement à toute qui a été l'initiative on va dire de cette démarche de ce cycle à l'université de Tours. Donc rendre disponible à donc des connaissances, des grandes questions qu'on se pose tous les jours, dont on entend tous les jours des commentaires, des reportages sur tous les médias, et donc en demandant à tous les intervenants d'être le plus intelligible possible, c'est l'objectif.
Alors peut-être qu'on peut dire un mot sur la place de l'alimentation au sein de l'université de Tours, c'est quand même quelque chose de spécifique.
C'est une réelle force, parce qu'il se trouve qu'à Tours, nous avons des spécialistes dans tous les domaines, sciences humaines et sociales, des sociologues, des anthropologues, des historiens très investi, on va dire, depuis toujours dans ce domaine-là. Vous savez que, par exemple, le repas gastronomique français a été inclus dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est une équipe tourangelle qui en est à son origine. Il y a d'autres démarches. Et puis, il y a aussi un autre aspect de l'alimentation, qui est, la nutrition, avec des médecins, des scientifiques. Nous avons une unité INSERM qui est spécialisée dans le lien entre la nutrition et le développement des cancers, donc vous voyez. Et l'idée, c'est de mettre tous ces gens ensemble de façon à rassembler toutes ces compétences. Et d'ailleurs, en tant que médecin, quand nous avons des patients face à nous ou des gens qui se posent des questions, c'est effectivement pas simplement, je dirais, l'aspect technique de médical qui est important, mais c'est justement de comprendre toutes les dimensions qu'a l'alimentation, qu'ont les problèmes de la nutrition. Et donc, ce sont des outils extrêmement utiles pour la meilleure compréhension de nos patients et des questions de société. Donc tout ça, nous l'avons à Tours, c'est une réelle force.
Peut-être voulez-vous ajouter des précisions sur ce qu'est le pôle alimentation de l'Université de Tours et l'IEHCA.
Oui, bien sûr. Le pôle alimentation regroupe effectivement toutes ces dimensions. Donc, sciences humaines et sociales, sciences, santé, technologie. Et personnellement, je suis très investi au niveau de l'université pour justement développer la transversalité, c'est-à-dire faire en sorte que, il y ait une approche commune, débouchant peut-être à des projets de recherche, par exemple, qui associent une question scientifique, une question sociologique, par exemple, Pour faire aussi en sorte, et nous créons cette année un module transversal pour les doctorants, les étudiants en thèse de sciences à l'Université de Tours, autour de toutes les unités qui sont liées au pôle alimentation, de pouvoir avoir un module transversal qui va effectivement montrer toute la diversité, toute la richesse de ce que nous avons à disposition à Tours. Donc, vous voyez, c'est un engagement profond. Parce que c'est une. Je pense qu'on ne peut pas, en tant que médecin, en tant que spécialiste, on va dire, de ce domaine-là, tronçonner des choses. La richesse, la nutrition, c'est quelque chose qui est au centre de notre vie. Quand on invite des amis, généralement, on mange. Il y a toute une dimension de partage, de communication autour de l'acte alimentaire. Et effectivement, si on veut bien comprendre tout ça, eh bien, il faut qu'on regroupe toutes ces compétences. Vous avez parlé de l'IEHCA, l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation. C'est une autre force de notre université. C'est pour ceux qui le... Certainement, vous connaissez ce bâtiment qui est la Villa Rabelais, donc au centre de Tours. C'est ce bâtiment 19e qui avant était d'ailleurs, je pense, l'université, enfin, en tout cas, la fac de droit, et qui est un endroit un petit peu emblématique puisque c'est là que... se concentre, je dirais, toutes ces compétences. C'est là que généralement nous nous retrouvons. C'est un espace qui est d'ailleurs amené à évoluer dans les années à venir, puisque il accueille actuellement dans ses anciens locaux une bibliothèque qui est un petit peu unique, et l'une des seules, je dirais, à regrouper autant d'ouvrages dans le champ de l'alimentation et de la nutrition. Mais demain, il y aura là des espaces de conférences, une espèce de restaurant en accueillant, je dirais, des personnalités qui font sens, je dirais, dans le champ de l'alimentation et de la nutrition et qui vont en faire le lieu, je dirais, où toute cette culture au sens large, avec un S, peut se retrouver. Donc ça, c'est un grand projet, effectivement, autour de l'université, de l'IEHCA, et qui concerne notre ville.
On peut aussi rappeler que Tours est une des 5, je crois, cités de la gastronomie.
Quatre, effectivement. Cité de la gastronomie, c'est une initiative, encore une fois, pour mettre en avant ce patrimoine, je dirais, qui est très propre à la France, ce patrimoine culturel autour de l'alimentation. Il y en a quatre. Vous avez Dijon, qui, elle, est plus tournée sur le vin. C'est le Bourgogne, bien entendu. Vous avez Lyon dans le domaine de la gastronomie. Et puis vous avez Paris, qui est en fait au travers de Rungis, représente, je dirais, les ressources, les approvisionnements. Et Tours a ce positionnement très particulier d'être sur le champ de ce patrimoine immatériel. Encore une fois, de tout ce qui est associé, ce qui ne se voit pas forcément, mais qui est culturellement extrêmement accroché, je dirais, à cette dimension d'alimentation-nutrition.
Voilà, donc on le rappelle, Tours, Dijon, Lyon et Rungis. Et je me trompais parce qu'il me semble que Bordeaux est ville du vin ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est un, voilà. C'est un autre champ.
Un autre champ.
Ouais.
Voilà. Alors cette programmation des tours des sciences, alimentation, goût et santé, donc quatre thématiques, mais avant de les dérouler, peut-être qu'on peut rappeler que ça n'a rien à voir avec les rencontres François Rabelais qui sont proposées plus tard en novembre par l'IEHCA.
Ah oui, je vous encourage, j'encourage les auditeurs à aller sur le site de l'université, sur le site de l'IEHCA, et pour découvrir effectivement la richesse, je dirais, du programme qui est proposé par à la fois l'université et l'IEHCA dans le domaine de l'alimentation-nutrition. Les rencontres François Rabelais sont une autre manifestation. J'espère que vous nous réinviterez pour qu'on expose le programme.
Avec plaisir.
Voilà. Il est tourné cette fois-ci sur toutes les dimensions, je dirais, de l'alimentation, du goût et de l'éveil, je dirais, des goûts chez l'enfant. C'est donc une dimension un petit peu autre et on en parlera avec plaisir.
Mais ce qui est commun, c'est l'idée d'ouvrir ces recherches au grand public.
C'est fondamental.
Voilà.
Absolument fondamental. Alors attention, on est sur le détour des sciences. C'est donc un cycle. On a, entre guillemets, et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, on a, pour quelqu'un qui est bien sûr très impliqué dans le champ de l'alimentation-nutrition, On a eu cette grande chance que ça soit le premier thème qui ait été choisi, donc alimentation, goût et santé. C'est un cycle, c'est-à-dire que l'année prochaine, nous reviendrons vers le public sur d'autres thématiques qui ne seront pas forcément liées, et même certainement pas liées à l'alimentation. Et puis les années après, sur d'autres thèmes, encore une fois, mettant en avant des grands questionnements, scientifiques, en apportant un regard le plus pertinent, mais encore une fois, avec cet effort de le rendre accessible à tout public. Et ça, c'est très important.
Voilà. Alors, Régis Encart, peut-être que vous voulez nous faire part des quatre thématiques que vous avez retenues pour cette première édition. De détour des sciences. On sait que ça parle d'alimentation, mais il y a quatre thématiques. Est-ce que vous voulez nous les présenter ?
Bien sûr. Alors, le premier thème, donc, une manifestation qui va se dérouler le 8 et le 9 novembre 2019 à l'amphithéâtre Thélème, donc au Tanneur. Ce sont quatre donc demi-journées. La première demi-journée, donc le vendredi matin, sera consacrée aux grands défis de l'alimentation. Quand on parle de grands défis, c'est bien sûr en premier lieu les dimensions du climat. Et là, nous avons l'honneur, je dirais, d'accueillir un prix Nobel, Jean Jouzel, qui est un climatologue, comme vous le savez, de renom, et qui effectivement va engager, je dirais, ce cycle de conférences. Ensuite, on abordera d'autres dimensions comme l'alimentation en transition, la défiance qu'on peut avoir quand on parle au mode de production alimentaire. Tous les jours, on voit ça à la télévision ou à la radio. On se pose la question des modalités de production agricole, animale. Et donc, ces points-là seront abordés par Marie-Françoise Chevalier-Le Guyadère. Et puis, on parlera d'un élément central, c'est l'eau. Comme vous le savez, c'est un des enjeux majeurs. Quelles seront les ressources en eau, d'autant que la production, notamment de ressources alimentaires, animales, consomme énormément d'eau. Donc tout ça, nous les posons, ce sont des questions qu'on se pose tous les jours. On fait attention à nos choix dans l'alimentation, parce que aussi on a cette idée derrière la tête d'économiser ses ressources. Et ça sera Pierre-Frédéric Tanière-Buchot qui abordera cette dimension. Il s'agit d'un cycle de conférences et de débats, c'est-à-dire que là on était sur les conférences, et ça sera suivi à chaque fois d'un débat qui est animé par des personnes d'expertise qui ont elles-mêmes une pierre à ajouter, mais qui surtout sont là pour animer un débat qui va être partagé avec le public. Ça, c'est très important. Et pour ce premier cycle de conférences, eh bien, nous aurons Christelle de Crémier. Comme vous le savez, c'est une vice-présidente, c'est l'une des vice-présidentes de la région Centre-Val de Loire, qui est très impliquée dans l'écologie et qui contribuera à animer cette discussion. Jean-Christophe Pagès, c'est l'un de nos collègues qui est très impliqué, lui, dans le domaine des organismes, des OGM en pratique, et qui donc apportera aussi son expertise. Et Guy Richard, qui est un ingénieur agronome, qui aussi sont des personnes, enfin pour partie de ces personnes d'expertise qui vont allumer un petit peu la mèche et faire participer le public. Ça, c'est le vendredi matin.
Voilà, donc on rappelle, trois interventions, grand défi, climatologie, eau, alimentation au sens large. Voilà, suivi d'un débat.
Voilà. Le vendredi après-midi, c'est manger en santé. Ça, c'est la part qui me concerne particulièrement. Tous les jours, on est confronté à des choix, ou en tout cas, on se pose des questions sur son alimentation pour de multiples raisons. Ça vient de son histoire personnelle, ça vient de ses engagements, politiques, philosophiques, etc. Et le fait est que quelquefois, on est un petit peu perdu, il faut reconnaître, et que d'ailleurs, certains d'entre nous se trouvent un petit peu perdus dans cette démarche et vont vers des conduites que je voudrais pas qualifier de déviantes, mais en tout cas qui peuvent poser problème et qui font d'ailleurs qu'on les reçoit en consultation. Là encore une fois, tout à l'heure on a parlé de transdisciplinarité. Je pense que pour mieux aborder ce problème, on a pris l'option de faire parler un sociologue, Jean-Pierre Corbeau, et un médecin spécialisé dans la nutrition, qui est moi-même, pour aborder ce point. C'est vraiment quelque chose, ça, qui fait partie de notre vie de tous les jours. On parlera peut-être de l'alimentation des étudiants, d'un certain nombre de choses. Voilà, voilà la première conférence. La deuxième concernera un autre point d'actualité qu'on voit très régulièrement dans la presse, qui est le microbiote. Comme vous le savez, on a 100 milliards de bactéries dans un gramme de nos selles. En d'autres termes, on a plus de bactéries dans notre tube digestif que dans notre cerveau. Et donc, il y a une réelle interaction qui se passe entre ces bactéries et puis notre organisme. Et c'est ça, de ça dont il va être question avec, là, l'expertise de Patrice Debré, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'un des pères fondateurs, on va dire, de ce détour des sciences, et donc qui va donner toute l'expertise sur ce point, puisque, comme vous le savez, nos bactéries de l'intestin, eh bien, elles sont aussi très impliquées dans certaines maladies. Ça sera certainement aussi les traitements de demain qui passeront par ce type de stratégie. Donc, c'est quelque chose qui nous intéresse tous. Et puis, le dernier intervenant est David Vallaillet. C'est un chercheur de l'INRA qui, lui, est spécialisé dans tous ces circuits qui font que nous allons vers certains aliments ou nous n'allons pas. Il est capable de les voir, de les visualiser. Et donc, on va parler de ces circuits qui font qu'un aliment fait plaisir, qu'on y retourne, etc. Le débat là sera animé par Julie Capel, qui est une diététicienne très engagée au niveau national et qui donnera le point de vue des personnes qui ont l'expertise dans la nutrition et dans l'application de la nutrition au jour le jour. Paul Bruno, qui est l'un de mes collègues, psychiatre, addictologue, qui gère notamment certaines au jour le jour, donc des patients qui ont des compulsions, des addictions alimentaires de tout type. Et Éric Guérif, c'est un chef, mais un chef un peu particulier. On a souhaité inviter un chef de restauration collective. C'est le chef de la cuisine centrale du CHRU de Tours. 5000 repas par jour. Il nous dira comment on arrive à concilier des contraintes que vous pouvez imaginer. 5000 repas, c'est pas effectivement faire la cuisine pour ses amis, c'est quelque chose d'autre, avec des dimensions de qualité, et parlera aussi de tout ce personnel qui, avec des moyens qui sont pas toujours qui sont forcément liés aux contraintes, je dirais, du fait de faire 5000 repas par jour, font leur mieux, et je crois que c'est important d'avoir son point de vue.
Voilà, on peut penser aux chocoholiques qui nous écoutent, aux gens addicts au chocolat ou à l'alcool.
Exactement.
Donc on va en savoir plus sur la façon dont certaines substances, donc dans les alimentations ou les boissons, activent peut-être les circuits de la récompense, du plaisir, toutes ces choses-là. Donc voilà, ça promet d'être passionnant.
Je crois, vous avez vu, la complémentarité de toutes ces personnes fait qu'à mon avis, voilà, on aura un débat de grande qualité, mais qui sera aussi, et c'est ce qu'on attend, hein, animé par les participants, c'est-à-dire par le public. Alors, la salle Télème, c'est une très grande salle. À nous aussi d'allumer un petit peu la mèche, de faire en sorte que les gens participent, mais c'est bien l'objectif, je dirais, de cette période d'à peu près 1h10, 1h15, après les conférences, que de faire participer le plus grand nombre. C'est notre objectif.
Voilà, donc une pause et un débat, hein, comme vous l'aviez dit, c'est le même fonctionnement que sur la première partie, sur le vendredi matin. Et avant de dérouler la journée du samedi, je propose qu'on fasse une pause musicale pour reprendre notre souffle et que nos invités auditeurs écoutent un peu de musique en digérant déjà tout ce programme du vendredi. Et je propose que l'on écoute Orange Blossom. On se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tours. Vous écoutez La Méridienne et je suis avec Régis Encart. We'll be right back. Vous écoutez toujours Radio Campus Tour et c'était Orange Blossom. Vous écoutez La Méridienne, mon invité c'est Régis Encart. Nous parlons de détours de sciences, conférences et débats grand public scolaire, alimentation, goût et santé, 8 et 9 novembre 2019, salle Télém à l'Université de Tours. Nous avions présenté le programme du 8 novembre. Régis Encart, que se passe-t-il le 9?
Ah bah, le 9 novembre, c'est tout autant passionnant que le 8. On va commencer la journée, donc la matinée, avec peur et plaisir alimentaire. Et là, on a la grande, encore une fois, l'honneur d'accueillir quelqu'un qui a écrit un livre tout à fait passionnant sur l'histoire des peurs alimentaires. Elle s'appelle Madeleine Ferrière. Et c'est cette dimension-là. Les peurs alimentaires font partie, je dirais, sont des déterminants de notre comportement alimentaire de tout temps. Par exemple, au Moyen-Âge, on avait peur de l'ergotisme, on avait peur d'un certain nombre de choses, de la qualité des viandes, etc.
Pardon, excusez-moi, je fais une parenthèse. Est-ce que vous voulez préciser ce qu'est l'ergotisme pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas?
C'est la maladie de l'ergot de seigle. Il se trouve qu'au Moyen-Âge, quand les conditions climatiques étaient mauvaises, eh bien, sur les céréales, et notamment le seigle, du fait de l'humidité, il y avait un espèce de champignon, l'ergot de seigle, qui poussait là-dessus et qui avait des effets tout à fait désastreux, puisqu'en fait, selon il y a différentes présentations de l'ergotisme, mais en gros, ça donne des ischémies de membres, c'est-à-dire qu'en gros, les membres ne sont plus irrigués et puis ils pourrissent quelque sorte. Vous voyez l'image que ça peut donner. Ou ça peut être aussi, ça donner certaines formes psychiatriques avec ce qu'on appelle la danse de Saint-Guy, etc., qui est effectivement l'une des manifestations de cet ergotisme. Extrêmement présent au Moyen-Âge, quand effectivement la production, la qualité de la production alimentaire, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, était très dépendant, bien sûr, des conditions climatiques et qu'on n'avait pas non plus tous les moyens, je dirais, actuels pour contrôler tout ça. Donc, les peurs, c'est ça, c'est de s'intoxiquer, c'est éventuellement de manquer, c'est les grandes famines, voilà. Donc, c'est absolument passionnant. Le deuxième intervenant est tout aussi passionnant, et tous sont absolument passionnants, bien entendu.
Bien sûr.
C'est Jacques Puiset. Jacques Puiset, c'est peut-être l'un des inventeurs d'une discipline qui est l'œnologie. Il va nous parler du goût au travers du goût du vin. C'est une histoire très tourangelle et c'est absolument passionnant. On est là dans ces dimensions, on est dans les peurs, puis là on est dans les choses qui nous attirent, dans l'alimentation. Et puis pour essayer de faire la synthèse de tout ça, avec aussi son côté un petit peu, enfin le côté provocateur qu'on lui connaît, le troisième intervenant, c'est Jean-Pierre Corbeau, professeur donc de sociologie, avec lequel d'ailleurs j'interviens la journée précédente, mais là, qui ferait la synthèse de tout ça avec un titre un peu provocateur. consommateurs et si les peurs alimentaires faisaient parfois plaisir. Et voilà, ça donne tout de suite le ton et je pense que ça va être une matinée extrêmement animée. Pour... Encore une fois, donc des conférenciers, des débatteurs qui eux-mêmes ont leur expertise dans ce domaine et qui, encore une fois, sont là pour éveiller, je dirais, la participation de la salle. Eh bien, nous aurons Olivia Souli, c'est un philosophe. Vous voyez, là, encore une fois, on fait vraiment dans la grande transversalité. Ce n'est pas une question de scientifique, de médecin. Il y a tout type de personnes qui vont intervenir dans ce cycle de conférences qui est absolument passionnant. Donc, un philosophe, Olivia Souli, et Laurence Ozipov, anthropologue, qui, elle, a beaucoup travaillé sur le végétarisme. Et donc, voilà, une session qui va être extrêmement animée.
Merci. Donc on rappelle, hein, c'est des formats avec trois interventions assez courtes quand même pour les gens qui seraient terrorisés à l'idée d'être captifs dans un amphi avec des conférences très longues. Pas du tout, c'est pensé pour que ce soit des formats actifs, courts.
C'est court, c'est des interventions d'une vingtaine de minutes. C'est surtout accessible, donc imaginez surtout pas des présentations avec des tonnes de diapositives et des chiffres, c'est pas du tout ça, ce sont des gens d'ailleurs qui ont l'habitude de parler à un public large, c'est pas non plus de la grande vulgarisation, c'est des gens qui vont amener des choses d'une grande pertinence, encore une fois, le contexte c'est que ça soit que tout le monde puisse comprendre les enjeux qui sont derrière ces grandes questions qu'on a mis au programme.
Mais enfin, le choix du format a été fait de telle façon à ce que ça touche le plus large public possible.
Exactement.
Voilà, vous avez sciemment choisi ces formats courts.
Absolument. Le format est court et la thématique, faut reconnaître, de commencer sur l'alimentation, nutrition, ça nous concerne tous. Donc effectivement, on pense que tout le monde s'interroge sur ces questions-là et je pense que ça sera le fait que ça soit accessible et le fait que ça soit cette thématique-là fera est un élément bien sûr d'intérêt. On espère que vous viendrez nombreux à ces deux jours, le 8 et le 9 novembre.
Et alors, juste avant qu'on détaille quand même la fin de cette programmation, est-ce qu'il y avait d'autres thématiques en lice quand vous travailliez sur le choix de cette thématique, ou est-ce que ça s'est imposé d'emblée, l'alimentation ?
Cette thématique-là s'est effectivement imposée du fait de l'importance, je dirais, de la présence de tous ces questionnements, je dirais, sur les médias. Ça nous est venu assez spontanément de vouloir commencer par ça. On voulait plusieurs choses. On voulait que ça soit, bien sûr, des questions d'actualité. On voulait aussi que, quelque part, ça mette en avant... je dirais, les compétences de notre communauté, de notre université. C'est une démarche d'universitaire. Et encore, ce que j'ai dit tout à l'heure était un point capital. Nous avons à Tours un ensemble de spécialistes dans des domaines qui touchent au sens large l'alimentation, nutrition, qui fait une réelle force de notre université. Donc c'est ça aussi qu'on a voulu faire pour Tours, mais pour toute aussi notre région. On a parlé tout à l'heure du pôle alimentation, de l'IEHCA. Ce sont des structures qui ont une dimension régionale. Et d'ailleurs, cette dimension régionale est très très importante, bien entendu, dans la communication que nous souhaitons réaliser.
Alors, quatrième thématique, la table de demain, samedi 9 novembre, après-midi. Ah.
Oui, parce qu'effectivement, à se poser des tas de questions sur ce que nous faisons aujourd'hui, eh bien, on a envie de savoir ce qu'on fera demain. Donc, la table de demain s'imposait. Et là encore, nous allons avoir des intervenants qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Bruno Loriou, qui est professeur d'histoire et le président d'ailleurs de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, un grand spécialiste de la viande. Quelle est la place de la viande dans notre alimentation aujourd'hui et demain? Donc il en fera une synthèse et bien entendu c'est au cœur de beaucoup de débats, beaucoup de questions que beaucoup d'entre nous nous posons. Et donc c'est une très bonne façon bien sûr de lancer cet après-midi. La deuxième personne, c'est Catherine Beaumont. Catherine Beaumont est la directrice, on va dire, de l'INRA, en région Centre-Val-de-Loire. Et là, ça sera tous les enjeux, je dirais, de l'agriculture de demain qui vont être abordés. Donc de la même façon, avec cette prospective sur, encore une fois, les grands enjeux, qu'il faut intervenir, toutes sortes de problématiques, l'élevage, les ressources, les organes modifiés, enfin ce qu'on aura déjà un petit peu, les organismes modifiés, pardon, ce qu'on a déjà un petit peu évoqué auparavant. Donc voilà. Et puis la dernière conférence sera l'entomophagie. Alors il faut qu'on explique ce mot, parce que ça c'est un mot bizarre. C'est le fait de manger des insectes. Comme vous le savez, la production, en tout cas les sources de protéines, sont l'un des enjeux majeurs de l'alimentation de demain. On a parlé un tout petit peu peut-être tout à l'heure de la viande, de ce qui était à côté, que ça coûtait très cher, que ça consommait beaucoup d'eau, que ça consommait aussi beaucoup de mobiliser beaucoup de ressources végétales. Vous savez qu'actuellement on se tourne vers des vers des sources alternatives. Ça peut être des criquets, des vers, etc. Dans certaines cultures, c'est déjà très présent, mais ça sera peut-être dans la nôtre dans les années à venir, et c'est donc cette dernière conférence. Pour animer ce débat, le président de notre université, Philippe Vendrix, qui aussi n'a pas sa langue dans sa poche, le prince Albert de Breuil, que peut-être certains connaissent, le prince jardinier, un spécialiste de la culture de la tomate en région Centre-Val-de-Loire, aussi un personnage haut en couleur, et Jean-Marie Bourg, qui est un médecin qui a beaucoup travaillé sur le rôle qu'ont les acides gras, les lipides, donc dans le développement du cerveau, et qui est aussi quelqu'un qui a son franc-parler. Donc voilà, c'est sur ces éléments-là qu'on terminera ces deux jours de Détour des sciences, et vous avez vu qu'avec la diversité de ce qui est proposé, la richesse, je pense que ça contribuera en tout cas à poser des questions à certains, peut-être à répondre à certains questionnements pour d'autres. Et on espère que ça sera très, très apprécié. Voilà.
Voilà, il y a aussi une idée peut-être de se décentrer de sa culture européenne, en tout cas française et tourangelle. Parce qu'après tout, comme vous le disiez, l'idée de manger des insectes, mais ça existe déjà.
Bien sûr.
Je pense par exemple en Afrique de l'Ouest, on trouve au Mali aisément un shitoumou burger, un burger aux chenilles. Donc c'est des choses qui sont totalement admises, courantes et même ordinaires dans certaines autres régions du monde.
Exactement. Donc, et là encore une fois, dans des prospective, je dirais, d'avenir. Il faut aussi parler des représentations qu'ont effectivement certaines sources de certains aliments. En tout cas, il y a du boulot, et encore une fois, vous voyez que ça ne peut pas être simplement pris comme une source protéique. Il y a tout un accompagnement, je dirais, toute une réflexion sur la place que ça a dans notre histoire alimentaire, dans nos représentations des aliments. Qui va être nécessaire si effectivement on veut voir évoluer les choses, on veut être plus responsable et surtout répondre aux grands défis de demain.
Eh bien, tiens, en feuilletant la plaquette, voilà, est-ce qu'on peut trouver des supports où sont résumés toutes les interventions, il me semble que c'est des intervenants qui viennent de plusieurs universités de France, mais c'est vrai que pour cette première édition, je ne vois pas de spécialistes venant peut-être d'Europe ou d'autres pays.
Non, effectivement. Alors, il faut savoir que c'est la première fois qu'on fait les choses. Je vous rappelle qu'on a sélectionné une thématique qui était, je dirais, pertinente, parce que tout le monde parle de ça, je dirais, tous les jours. On a voulu mettre aussi un petit peu en avant notre région, notre université, quand même. Voilà.
C'est toujours une bonne idée.
C'est toujours une bonne idée, absolument. Et sachez que pas plus tard qu'il y a deux jours, on recevait d'ailleurs une délégation africaine avec, pourquoi pas, peut-être des projets, je dirais, de collaboration à venir. Mais enfin, on en est là encore aux prémices. Mais oui, il faudra faire ça, bien sûr. Et on va encore s'améliorer s'améliorer, je dirais, avec les années à venir, c'est évident. On ouvrira, ça sera encore plus large. Peut-être d'ailleurs que cet événement, qui est un événement régional, a d'ailleurs à dimension régionale et pourquoi pas nationale, pourra peut-être prendre plus d'ampleur, parce que s'il est, il est apprécié, si effectivement eh bien, les gens y trouvent leur compte, la diversité, l'accessibilité de l'information, eh bien, peut-être qu'il est voué à un avenir encore plus large.
Alors, avant de peut-être de vous questionner, Régis Encart, sur les suites à donner à cette première édition, je propose qu'on fasse une nouvelle pause musicale. Et puisque nous parlons d'alimentation, goût et santé, je ne résiste pas à la tentation d'écouter cette chanson Astérix et Cléopâtre, Quand l'appétit va, tout va. Voilà, je pour excuse d'être sur une radio étudiante, donc on me pardonnera, j'espère, cette pause musicale peu orthodoxe, évidemment pas dans nos playlists habituelles.
Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vis dans les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va.
Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les quenottes qui croient qu'ils grignotent. Quand l'appétit va, tout va.
Les sangliers d'Obélix.
Écoutez ce qui va suivre. Le vieux proverbe est changé. On ne mange pas pour vivre, il faut vivre pour manger.
Quand l'appétit va, tout va. Pour la santé, y a que ça. La pure émotion, c'est quand on a son estomac dans les talons.
Les petits points frais, les bons gros, sur un rythme d'allégro. Pour manger et boire, font jouer des mâchoires. Quand l'appétit va, tout va.
Les choses d'idées fixes.
Papa des pompes de vin, papa des pompes de vin, papa des pompes de vin, papa des pompes de vin.
Obélix, mon cher amour, je t'empirerai toujours, mais le roi des rois, désormais c'est toi, quand Obélix va tout voir.
Cléo, j'aime ton nez mignon, j'aime aussi les champignons, et puis les saucisses et le pain d'épices, quand l'appétit va tout bas. Quand l'appétit va tout bas.
Sans fromage, c'est une belle qui n'a qu'un œil. C'est un oiseau sans plumage, une forêt sans écureuil.
Quand l'appétit va,
tout va.
Quand l'appétit va,
tout va.
Veuillez rendre hommage
au glorieux fromage.
Quand l'appétit va,
tout va.
Quand le chameau passe et l'âme. Quand le chameau passe, et là, il nous faut monter, chasse au brillé, quand le chameau passe, et là.
Mais non, j'ai une bosse, je suis un dromadaire, pas un chameau. Oh, c'est agaçant à la fin.
Quand l'appétit va, tout va, quand l'appétit va, tout va, vive les quenottes qui prennent des crayottes,
quand l'appétit va, tout va, ne l'oubliez pas, brave Jean, l'appétit vient en mangeant.
Puis dans les futailles, y'a nous la ripaille. Quand l'appétit va, tout va.
Psst. Radio Campus Tours, vous écoutez La Méridienne et voilà, je me suis autorisée à vous faire écouter Quand l'appétit va, tout va. Astérix et Cléopâtre, plus sérieusement, nous parlons avec mon invité Régis Encart de Détour des Sciences, première édition de cet événement, conférences et débats grand public scolaire, alimentation, goût et santé, 8 et 9 novembre 2019, salle Télém. Alors, nous avons détaillé tout ce programme, Régis Encart, sur 4 demi-journées. Où est-ce qu'on peut le retrouver pour nos auditeurs qui auraient pris l'émission en cours de chemin ou n'auraient pas eu le temps de prendre des notes ?
Alors, on peut le retrouver sur le site de l'Université de Tours. Je crois qu'il est en première page. Il a une page qui est détours-des-sciences. .univ-tour.fr, mais il est bien sûr consultable, accessible, tout simplement en tapant Université de Tours, en tapant Détour des Sciences, en allant sur le site de l'IEHCA, un autre partenaire majeur, je dirais, de cette manifestation. Et pour souligner la qualité, c'est un point important, du travail de communication qui a été fait, quand vous arriverez sur ce site, vous trouverez un site d'une grande élégance, concis, beau et très informatif. Et j'espère que ça va contribuer à vous faire venir. Les architectes de ceci sont deux personnes qu'on pourrait citer, Anne-Sophie Laure, Hélène Audan et toute leur équipe, la communication de l'Université de Tours, qui a fait vraiment un travail remarquable et que je tiens vraiment à remercier en premier lieu.
Voilà, donc on peut aussi peut-être rappeler un mot sur vos partenaires de cette première édition, on le rappelle, le Détour des Sciences. Donc on a cité évidemment l'Université de Tours, mais il y en a plein d'autres.
Il y a l'Université de Tours, il y a le centre, la région Centre-Val-de-Loire, qui est bien sûr très impliquée dans ce domaine. J'en profiterai d'ailleurs pour dire un mot, que nous avons que l'un des objectifs de Détour de Sciences, c'est de communiquer au plus grand nombre. Donc la région Centre-Val-de-Loire est une très très grande région. On s'est demandé comment les toucher. C'est la première fois. On a là décidé de faire des captures vidéo de l'ensemble de la manifestation qui seront montrées, qui seront disponibles sur les sites de nos effectivement de l'université, de la région Centre-Val-de-Loire. C'est une façon de disséminer cette information de grande qualité. On a un partenariat avec un certain nombre de lycées, notamment le lycée agricole, qui vont venir. C'est le début. On fera de mieux en mieux quand on saura comment faire, comment trouver effectivement des démarches innovantes pour toucher le plus grand nombre dans une région aussi étendue que la région Centre-Val-de-Loire. Autre partenaire, le CHRU de Tours, dont je fais partie, bien sûr, en tant que médecin, enseignant, chercheur. L'INSERM, on a dit que c'était l'un des points majeurs de notre région, que d'avoir aussi des équipes qui font une recherche fondamentale tournée vers la nutrition, vers le cancer. L'INRA, bien sûr, qui le fait sur un angle un petit peu différent, un petit peu moins médical, mais tout aussi pertinent dans ce domaine. On a cité l'IEHCA, Institut Européen d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation, le Club de la Presse, un partenaire très important, qui d'ailleurs va contribuer à l'animation de ces journées, puisque, je répète, trois conférences, un débat, et l'animateur sera journaliste du Club de la Presse. Il nous accompagne depuis le début et il faut bien sûr les en remercier de ce soutien dès le départ. La ville de Tours, Tours Métropole, bien sûr, nous sommes à Tours. Deux participants qui ont d'autres rôles, comme l'Association française pour l'avancement des sciences, et puis le MURS, qui est une autre structure, Science et Devenir de l'Homme, qui sont des associations qui font la promotion de la diffusion de la communication scientifique. Ça, c'est le rôle particulier de Patrice Debré. J'ai dit que c'était une démarche d'universitaire. L'un des leaders, je dirais, de cette initiative, c'est Patrice Debré, qui est très impliqué dans ces deux associations et qui ont été aussi d'un atout majeur. La diffusion aussi vers les jeunes, c'est aussi l'organisation Centre Sciences qui est partenaire, avec lequel justement nous avons développé cette démarche vis-à-vis notamment de lycées agricoles ou du monde de l'enseignement, qui sont aussi des partenaires qui sont extrêmement précieux. Je ne sais pas, j'espère ne pas avoir oublié quiconque, mais vous voyez que c'est effectivement une histoire qui a mobilisé pas mal de monde, qui est ambitieuse, qui est innovante, et encore une fois, si j'avais oublié quiconque, j'en serais bien désolé.
Voilà, alors peut-être une question non pas perfide, bien sûr, mais... Par exemple, dans toutes les thématiques passionnantes qui sont proposées dans cette journée... ces deux journées d'ailleurs d'échange, puisqu'il y a un souci aussi pour rendre accessibles ces savoirs, peut-être pourquoi pas une intervention sur la précarité alimentaire.
Vous parlez d'un point qui est absolument majeur. Il se trouve qu'on a participé, j'ai personnellement participé à un cycle de communication qui d'ailleurs sont sur Internet du Fonds français de l'alimentation santé sur effectivement la précarité. On l'a pas, c'est vrai, intégré à ce niveau-là, étant plus dans le champ sociétal. Alors vous me direz, on joue dans la transversalité, mais on voulait effectivement qu'il y ait une question scientifique avec une recherche au départ. Il y a une recherche en sociologie, il y a un certain nombre de choses effectivement dans le champ de la précarité, mais on l'a effectivement pas sélectionné sur cette édition. Voilà. Vous avez raison. Il y a certainement d'autres choses qu'on a oubliées. C'est déjà un programme qui est très très riche. Il fallait que ça rentre dans... ça va être deux journées assez denses, avec des contraintes pour qu'encore une fois, on puisse faire en sorte que ça soit audible, ne pas lasser aussi notre public. Il faut faire des choix. Et ce sont des éléments qui sont rentrés à un moment, mais qu'on n'a pas sélectionné pour cette édition-ci.
Voilà, choisir, c'est renoncer.
Choisir, ouais.
Est-ce que ça existe encore, le PNNS, le Plan National Nutrition Santé ?
Bien entendu, bien entendu.
Est-ce que vous voulez en dire un mot pour nos auditeurs ? Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ?
Alors, c'est très important parce qu'encore une fois, on est tous un petit peu perdus. Alors, il y a des détracteurs qui diront « Oui, vous dites ça, 5 fruits et légumes, mais est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 6, etc. » Le fait est que, il faut avoir quelque part des repères simples et des repères qui sont cohérents, et ça, je crois que c'est une contribution majeure du PNNS. Bien sûr, comme toute démarche, il y a du pour et du contre, et je dirais que c'est même assez naturel. Je pense encore une fois que pour une communication grand public, de bon sens, quand on est un petit peu perdu, ça fait partie des grandes choses qui ont été menées en France et qui contribuent, je dirais, qui donnent des cadres, sans être trop restrictifs, mais des cadres simples. Donc, on ne communique pas. Si on devait vous transmettre tous les questionnements qu'on a tous les jours, ça serait parfaitement inaudible. Parfaitement inaudible. C'est vrai que de communiquer en donnant des messages chocs, c'est de l'autre côté un peu restrictif, mais quelquefois, et je pense que quand on a communiqué largement, c'est tout à fait nécessaire. Donc personnellement, je suis un soutien dès la première heure à ce programme, dont je connais bien l'animateur. Mais comme dans tout, il y a des questionnements, mais ça c'est normal, ça fait partie de la démarche, je dirais, scientifique et générale de remettre en question. Le problème, quand on communique de façon large, il ne faut pas que ces dimensions-là soient trop présentes parce qu'ensuite on est complètement perdu. Voilà.
Alors peut-être qu'on peut rappeler quand même pour nos auditeurs qui ne verraient pas exactement de quoi il retourne le PNNS, donc le...
Programme National Nutrition Santé.
Voilà, c'est manger, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour. C'est ces messages qu'on entend encore d'ailleurs régulièrement.
Qui ont été réactualisés il y a peu.
Voilà, puisque je crois qu'il a été reconduit 2018-2022.
Voilà.
C'est pas un plan quinquennal, mais
voilà.
Donc
ça, c'est toute une question. Là, ça ne fera pas partie du détour des sciences.
Non.
Ça fait partie de la grande communication, je dirais, autour d'alimentation, nutrition. Des choses qu'on abordera d'ailleurs un petit peu avec Jean-Pierre Corbeau, puisque nous, notre rôle, ça va être justement d'être à la frontière, je dirais, entre la société les questions qu'on peut se poser et la maladie. On va parler notamment quand quelquefois ce souci de l'alimentation devient envahissant, on tombe dans une démarche qu'on appelle l'orthorexie. On a d'ailleurs écrit un article qui est disponible pour tous sur The Conversation, qui est un journal sur le web que vous connaissez peut-être. Il suffit de taper orthorexie, vous tomberez là-dessus. C'est beaucoup de bon sens, mais pour dire qu'effectivement, quelquefois, on est tellement perdu dans toute cette information que, on se pose des tas de questions. Puis quelquefois, ceci devient un élément central de notre vie de tous les jours. C'est envahissant, on ne vit plus bien, on se coupe de ses amis, de son environnement, et on souffre. Et c'est de ça dont on va aussi un petit peu parler. Le PNNS est un élément qui est censé donner un cadre, pas trop restrictif, etc., mais un repère quand on est un petit peu perdu.
Voilà, et bien merci beaucoup Régis Encart d'être venu nous présenter cette première édition de Détour des sciences, conférences et débats, alimentation, goût et santé, 8 et 9 novembre 2019 à Tours. Et donc, vous reviendrez l'année prochaine.
Quand vous voulez, avec grand plaisir, sur d'autres thèmes qui concernent la nutrition, ça sera avec très très grand plaisir.
Alors, nous allons terminer cette méridienne en écoutant Orbit, voilà, le trio jazz qui vient de sortir un nouvel album éponyme. Ils sont chez le label indépendant Yolk à Nantes, donc nous écoutons Orbit et précisément nous allons écouter le tourniquet. Je vous souhaite à tous une excellente journée à l'écoute de nos programmes.